Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
7h48, Olivier Mazerolle, vous recevez ce matin Nathalie Kosciusko-Morizet, députée de l'Essonne et candidate à la primaire de la droite et du centre.
Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet.
Bonjour.
En Italie, Virginia Raggi, candidate populiste, devient maire de Rome avec 67% des suffrages. En Autriche, Marine Le Pen est acclamée par le parti qui a raté de peu la présidentielle. Avec le Brexit cette semaine, les Anglais chantres du libéralisme sont tentés par le protectionnisme. Dans cette quête européenne pour le changement, le renouvellement, la droite en France, les Républicains, constituent une alternative crédible au pouvoir de gauche ?
C'est à elle de le démontrer à l'automne. Je crois qu'aujourd'hui, les Français ne sont pas complètement convaincus. Ils savent qu'ils veulent plus de François Hollande. François Hollande, c'est fini, c'est clair. Il y a une perte de crédibilité complète. Il y a là une sanction de la trahison et du mensonge comme pratique politique chronique. Donc ça, ils ne veulent plus. Mais ils demandent encore à être convaincus par la droite et le centre. Et c'est l'objet de la primaire. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait un beau débat, qu'il y ait un vrai débat, qu'on aille au bout des différentes options.
Alors en attendant la primaire, si vous aviez 19 ans aujourd'hui, comme lorsque vous avez voté contre le traité de Maastricht, est-ce que vous voteriez pour rester dans l'Europe telle qu'elle est ?
Moi, je voterais pour rester dans l'Europe si j'étais britannique. Je pense que c'est l'intérêt des Britanniques de rester dans l'Europe. Malgré le vote contre Maastricht. Maastricht, je trouvais que c'était un traité très compliqué. Et c'était vraiment décevant comme premier vote pour moi. Mais restons aujourd'hui. Je voterais pour rester dans l'Europe si j'étais britannique. Je crois vraiment que c'est l'intérêt des Britanniques de rester dans l'Europe. Mais dans votre question, vous parlez de l'Europe telle qu'elle est. Et en fait, je crois que l'Europe, le problème, c'est quand même l'Europe telle qu'elle est. C'est-à-dire que je crois qu'il faut encore croire au projet européen. Moi, je suis très pro-européenne. Mais parce que je crois au projet européen, j'ai envie de la changer. Toute cette histoire du Brexit, tout ce débat, et quelle qu'en soit l'issue, il marque une chose, c'est qu'il faut transformer l'Europe. C'est
oui, alors justement, comme ça marche quel plus. Que soit le résultat, donc qu'est-ce qu'il faudrait faire ? La première mesure à prendre pour dire aux Français, regardez l'Europe comme c'est formidable, il y a un projet.
Non mais justement, pardon, là je ne suis pas dans votre logique. Pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument que les politiques expliquent, regardez l'Europe comme c'est formidable ? Pourquoi est-ce que l'Europe est formidable ? Est-ce qu'il ne faut pas la reconstruire avec eux ? Moi je crois que quelle que soit l'issue, que les Britanniques sortent ou ne sortent pas, on a besoin d'un grand processus de refondation. Et la bonne nouvelle, c'est que cette idée progresse en Europe. Vous regardez les déclarations de différents responsables européens ces derniers temps, y compris des gens très pro-européens aussi. Cette idée que l'Europe ne peut plus continuer comme ça, elle progresse. Le problème, il est ailleurs, c'est que pour transformer l'Europe, notamment pour avancer dans l'Europe politique, il faut que la France soit investie. Et franchement, la France, depuis quelques années, c'est le sleeping partner en Europe. La France, elle est au rendez-vous de rien. La France, elle n'a plus vraiment d'existence politique en Europe. Même d'ailleurs, vu du reste du monde, ça m'a beaucoup frappé que dans la dernière tournée d'adieu européenne d'Obama, il ne soit pas arrêté en France. Vous vous rendez compte du camouflé ?
La primaire, vous dites c'est important, donc c'est un sujet de débat. Et vous, votre doctrine, c'est nous entrons dans un nouveau monde, celui de l'entreprise individuelle. Le statut de salarié, il va disparaître progressivement. Comment pouvez-vous convaincre ceux de vos compatriotes qui ont justement la peur de ce nouveau monde et qui voudraient davantage de sécurité sur le plan du salariat ?
Eh bien, organisons-nous pour qu'il y ait de la sécurité dans ce nouveau monde aussi. Moi, qu'est-ce que je dis ? On a changé de monde. L'économie, la société sont en train de subir des transformations profondes. Et il y a un problème, c'est que la politique, elle n'a pas changé. Donc elle est de plus en plus décalée avec ce que vous vivez. La politique, par exemple, elle nous parle de comment on va réformer à la marge le CDI, le CDD. Mais aujourd'hui, les jeunes qui entrent sur le marché du travail, on leur propose pas des CDI et souvent on leur propose pas des CDD. Et de plus en plus, là où va se déployer l'emploi dans le nouveau monde, c'est le travail indépendant.
Mais ils sont pas tous armés non plus pour se débrouiller tout seuls.
Non, mais c'est pour ça que
pour créer leur entreprise.
Il y a deux solutions. Soit on fait comme si c'était pas en train de se passer, ou comme si ça pouvait redevenir comme avant. Ça, c'est ce que promettent les conservateurs de droite et les conservateurs de gauche. Les conservateurs de gauche, ils vous promettent que rien va changer. Vous allez avoir des CDI, des CDD. Et les conservateurs de droite, ils vous promettent, plus encore, ils vous promettent que ça va redevenir comme avant. La vérité, c'est que c'est pas possible. c'est en train de changer. Et donc notre enjeu à nous autres politiques, c'est pas de promettre des trucs qui n'arriveront pas, de vous dire que vous pourrez travailler avec un CDI toute la vie dans la même entreprise comme du temps de vos parents. Notre responsabilité à nous autres politiques, c'est de faire en sorte que ce nouveau monde ce soit pas la jungle. Par exemple, très concrètement, moi je propose qu'il y ait un statut général du travailleur indépendant, pour que être travailleur indépendant, ce soit vraiment une opportunité, avec une protection sociale, avec la possibilité de se louer quand même un appartement, parce que c'est pas facile quand on est travailleur indépendant aujourd'hui, que ce soit vraiment une opportunité. Alors, je dis plutôt que de tourner le dos au nouveau monde, faisons en sorte que ce soit véritablement une chance.
Est-ce qu'avec un discours comme celui-là, très novateur, vous ne redonnez pas une chance à François Hollande, qui par ailleurs, d'ailleurs, vient d'accepter de se plier à une primaire, à la compétition d'une primaire de la gauche de gouvernement?
Écoutez, d'abord, je sais que je suis pour la primaire. Moi, je l'ai défendue à droite et par principe. Je pense que c'est, quand il y a un débat de légitimité, c'est une bonne chose. Mais penser qu'il y a un débat de légitimité sur la légitimité d'un président sortant, c'est quand même, on le voit bien, un peu problématique. En fait, cette primaire, c'est pour sauver le soldat Hollande. C'est une primaire pour essayer de lui redonner une légitimité, une primaire qui sera probablement très très étroite, puisqu'il y a toute une partie de la gauche qui ne veut pas participer. On verra. Moi, par principe, encore une fois, je suis pour les primaires, mais primaire ouverte, une primaire qui respire, une primaire qui fait vraiment débat. Là, on a l'impression, écoutez, même si Mélenchon, qui est son seul vrai opposant à gauche dans les sondages, qui lui fait vraiment pièce, si Mélenchon refuse la primaire, on ne voit pas très bien ce que sera la primaire de la gauche.
À propos de primaire, vous avez vos signatures de parlementaires, les 20
parlementaires. Ça avance bien.
Pardon ?
Ça avance bien.
Vous en êtes où ?
Ça avance bien. Mais je ne donne pas de chiffres, pour la même raison. Je peux
Alors,
vous réexpliquer
quand même,
comme
vous
la dernière fois.
Vous êtes convaincu qu'ils ne veulent pas de vous, parce que vous êtes une femme.
Ah oui, il y a d'autres raisons. Hein.
Ah oui, vous allez même jusqu'à dire « ils me prennent pour une sorcière ».
Non, j'ai pas écrit
ah,
exactement
si,
comme
si,
ça.
Ah si, vous l'avez
mais
écrit dans le livre.
Je pense que la politique...
Une sorcière, et en plus, vous ajoutez, et si en plus la sorcière est un peu rousse, alors c'est le pied.
Et je vais m'expliquer. Je pense que la politique a tendance à cultiver l'entre-soi. Et en fait, c'est pas de ça dont on a besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans un monde en pleine transformation, on a besoin d'idées, on a besoin d'être innovant. On a besoin de se dire les choses d'une certaine manière. La politique, elle a tendance à cultiver l'entre-soi et la fausse protection. On vous promet que rien ne va changer. On vous promet que tout va pouvoir rester pareil. Mais c'est pas vrai. En fait, c'est pas vrai.
Et c'est pour ça qu'on vous prend pour une sorcière, parce que vous dites ça.
Bah moi, j'ai tendance à dire les choses, hein, le dire de manière un petit peu directe. Et puis aussi, ne pas refuser le débat sur les nouveaux sujets, les sujets qui montent, les sujets qui bousculent, l'écologie, le numérique, les grandes transformations du monde du travail. Vous savez, dans un meeting, c'est plus facile de promettre à tous les gens qui sont là, avec moi, demain, vous aurez tous un CDI.
Il y aura peut-être une femme.
Le problème, c'est que c'est pas vrai. Ok, c'est
si
pas
vous,
vrai.
Vous n'y arrivez
et moi, je
pas,
préfère leur dire.
Si vous n'y arrivez pas, il y aura peut-être une femme,
solutions.
Michel Alliot-Marie, qui ce matin dit, ben moi, je vais y aller.
Et c'est une ligne politique assez différente. Hein.
Différente, oui. Mais c'est une femme.
Certes, mais la question n'est pas seulement celle du genre, Olivier Madrol, c'est une ligne politique assez différente.
Allez, une dernière question. Dernièrement, dans le journal Le Monde, vous êtes livré au jeu du portrait chinois et vous avez dit ceci, j'ai un penchant pour le complot reptilien. Vous pouvez traduire ?
Mais là, parce que, attendez, remettez les choses dans leur contexte. Il demandait quel complot vous inquiète. Ce qui est bizarre, enfin, je veux dire, est-ce qu'il faut absolument être inquiété par un complot ? Et il y a un truc à la mode en ce moment sur Internet, dans les réseaux sociaux, c'est le complot reptilien.
Et c'est quoi le complot reptilien ?
C'est l'idée qu'il y a, c'est des trucs de science-fiction, c'est l'idée qu'il y a un peuple de reptiliens qui se dissimule parmi nous et qui... C'est des trucs de science-fiction contemporaine, Olivier Badrol. Je suis pas sûr que ça mérite beaucoup de débats. C'était une joke. C'est
Merci.
Une plaisanterie.
Merci Nathalie Kosciusko-Morizet.
Une dernière question, Nathalie Kosciusko-Morizet. 15 euros de plus pour le pass Navigo, vous trouvez ça normal ?
Non, je trouve ça scandaleux. C'est scandaleux. Et pour nos auditeurs quand même, il y avait la gauche a fait le pass Navigo tarif unique, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais au moment où elle l'a fait, on a dit, attention, vous le financez comment ? Et à ce moment-là, parce qu'on était en période préélectorale, la gauche a dit, vous inquiétez pas, l'État compensera. Ce sera compensé, ce sera financé. Et puis là, eh ben, l'élection elle est passée, ils l'ont perdu sur l'élection régionale, et donc l'État dit, ah ben non, finalement on paye pas. Mais vous savez quoi ? Ce qu'ils font au niveau régional là, qui est scandaleux, hein, parce que 10 ou 15 euros de plus le pass Navigo, c'est pas rien, moi j'ai peur aussi qu'ils fassent au niveau national. Parce que c'est la même chose qu'ils nous font au niveau national. Toutes les semaines, là, François Hollande, il nous fait des promesses, il y en a déjà pour 5 milliards de promesses, et puis à chaque fois il dit, vous inquiétez pas, ce sera financé, tu parles. Alors il va perdre l'élection, et puis derrière on va se retrouver avec quoi ? 5 milliards de promesses sur les bras. Et les Français, ne vous laissez pas faire.
L'entretien que vous venez d'avoir avec Olivier Mazerolle est à retrouver sur le site rtl.fr. Merci à tous les deux.